Studio Tamani, voici les informations en français.
C'est l'heure de vos informations matinales. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le déploiement pour le recrutement de nouveaux sélectionneurs à la tête des Aigles du Mali a débuté hier. Une dizaine de Maliens figurent parmi les candidats. La journée internationale de l'aide humanitaire a été célébrée hier à travers le monde. Elle intervient au Mali dans un contexte où 151 cas de violence ont été enregistrés contre les travailleurs humanitaires. Studio Tamani a fêté ce lundi 19 août 2024 son 11e anniversaire, une occasion pour les responsables de la boîte de faire le bilan et de se projeter sur les défis à relever. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imrana Kilomaiga à la mise en onde de Nounguiri. L'appel à candidature pour un nouveau sélectionneur à la tête des Aigles du Mali a expiré le 16 août dernier à midi. La commission ad hoc mise en place à cet effet a commencé le déploiement ce lundi 19 août dans l'après-midi. Parmi les candidats figurent au moins une dizaine de Maliens selon certaines sources. Le point avec Aïssata Diarra.
Nous sommes à 2 semaines de la prochaine rencontre des Aigles comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Et les Aigles n'ont toujours pas d'entraîneur. Une source au sein de la Fédération malienne de football FEMAFOOT affirme qu'au moins 35 personnes ont postulé pour être le prochain coach des Aigles. Parmi eux, 9 Maliens. C'est lundi 19 août, le dépouillement des dossiers a commencé. Selon certaines informations, les travaux pourraient prendre 3 jours. Pour rappel, les objectifs assignés à ce nouvel entraîneur sont de mettre en place une sélection nationale senior A du football sur la base des nouveaux fondements, de qualifier le Mali à la phase finale de la CAN 2025 et d'y atteindre au minimum les demi-finales. Autre objectif fixé pour le futur sélectionneur, qualifier les Aigles au Mondial 2026 et y atteindre au moins les 8e de finale.
Des chroniqueurs sportifs préviennent que le temps joue contre ce futur coach pour mettre en place une équipe compétitive en vue des prochaines séances des Aigles. Pour eux, ce n'est pas tant le profil recherché qui est important, mais plutôt la personnalité du sélectionneur. Souleymane Bobo Tunkara est chroniqueur sportif au quotidien national et le sort. Il est au micro de Mariam Meiga.
Ce critère plutôt est défavorable au coach malien. Donc ce sont des gens qui sont connus du public. Ce sont des gens qui, pour la plupart, n'arrivent pas à contenir la pression sociale quand ils deviennent sélectionneurs nationaux. Et ce n'est pas tant les critères qui sont importants, mais plutôt la personnalité de l'entraîneur qu'on va choisir. Je veux dire le charisme à travers ses méthodes et son travail. Un entraîneur respecté qui a, au-delà du CV, qui a une certaine personnalité, qui se fait respecter. Et le temps sera vraiment le premier adversaire du futur sélectionneur. Les éliminatoires débutent en début septembre, donc dans 2 semaines. Est-ce que, après avoir choisi ce sélectionneur-là, est-ce qu'il aura le temps de venir d'abord au Mali, de prendre contact avec les autres entraîneurs, de faire des séances de travail avec la fédération, de rencontrer le ministère en charge du sport et surtout de contacter les joueurs dont il aura besoin pour les deux premiers matchs du Mali. C'est extrêmement court, le timing est trop juste.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Au Mali, 151 cas de violence ont été enregistrés contre les travailleurs humanitaires. Ces chiffres ont été communiqués ce lundi par le coordinateur humanitaire par intérim à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée sous le thème « Agir pour l'humanité ». Selon le décompte provisoire de la base de données sur la sécurité des travailleurs, 2 humanitaires ont été tués et 7 autres ont été enlevés depuis le début de l'année 2024. Cependant, selon les responsables en charge du développement social, des dispositions sont prises face au phénomène Mahman Baba Kunta.
Cette commémoration rappelle les défis auxquels les humanitaires sont confrontés dans le déploiement de l'aide, a souligné Malay Diop, coordonnateur humanitaire par intérim au Mali. Selon lui, les acteurs humanitaires sont résolument engagés et déterminés à maintenir la continuité de l'aide afin de sauver des vies et alléger les souffrances des plus vulnérables.
Les opérations humanitaires coordonnées par le système des Nations Unies ont permis de fournir une aide vitale à plus de 140 millions de personnes l'année dernière. Les travailleurs humanitaires, qui sont pour la plupart recrutés sur le plan national et travaillent au service de leur propre communauté, ont poursuivi leur mission malgré la violence et la brutalité auxquelles ils doivent faire face.
Pourtant, le ministère de la Santé et du Développement Social rassure, selon le secrétaire général Dr Abdoulaye Guindo, chaque semaine, les efforts des humanitaires sont mis dans la communication verbale.
Hommage vraiment à ces humanitaires par rapport à leur rôle, en tout cas, qu'ils sont en train de jouer au Mali aujourd'hui. Les remerciements du gouvernement à l'endroit vraiment de ces humanitaires qui sont en train quand même de perdre la vie en apportant vraiment de l'aide à la population malienne.
Notons qu'au cours de cette journée, les participants ont été aussi émerveillés avec des expositions et des panels de discussion.
Les récentes inondations enregistrées ce week-end à Bamako et à l'intérieur du pays ont fait d'énormes dégâts. Au lendemain de cette catastrophe, les personnes affectées par ces inondations ne cachent pas leurs inquiétudes. Le point dans ce reportage de Khalifa Goïta.
Des maisons et murs effondrés, des eaux stagnantes, des déchets sur la voie publique, tel est le visage que présente Bamako par endroit au lendemain de ces inondations. Ce lundi, en commune 6 du district de Bamako, la mairie se mobilise pour évacuer les ordures. Des habitants lancent un cri de cœur aux autorités et aux personnes de bonne volonté.
L'eau a emporté nos vivres et nos télévisions. Nos enfants souffrent également de petites maladies. La maison est inhabitable.
Je n'arrive pas à démarrer ma moto, mais des téléphones et des sacs de riz sont endommagés. J'ai déménagé chez mon voisin qui a un étage.
C'est le même désarroi chez Boubacar Koulouali à Ségou. Ce chef de famille se souviendra longtemps de la nuit du vendredi 16 août 2024. Le sinistré demande de l'aide.
À 3h du matin, madame et les enfants ainsi que ses parents ont eu peur que la maison ne tombe sur eux et sont venus sous le hangar. Malheureusement, une partie de la maison est tombée sur eux. La vieille et l'une de mes trois filles sont mortes sur le coup. Trois enfants ont pu être sauvés. Nous n'avons plus de maison ni de dortoir. Nous voulons
Aminata Mahaman à Gao a vécu le même sort. Aujourd'hui, elle manque de tout et a trouvé refuge chez un voisin.
Quand j'ai senti que la maison était sur le point de tomber, j'ai amené les enfants chez les voisins. Jusqu'à présent, nos effets sont dans la boue. On n'a même pas les moyens pour aller habiter dans les écoles.
La vigilance doit rester de mise. Mali Météo annonce encore des fortes pluies cette semaine à travers le pays.
Ce 19 août 2024 marque le 11e anniversaire de Studio Tsemani. Une cérémonie sobre a été organisée ce lundi matin à la Maison de la Presse pour célébrer ses 11 ans. Pour des responsables de la Maison de la Presse, le bilan de ses 11 ans de production d'une information crédible et utile pour les populations est satisfaisant. Cependant, des défis restent encore à relever, explique le patron de l'organe, Ali Cissé, pour plus de détails.
La commémoration de ce 11e anniversaire a été l'occasion pour le président de la Maison de la Presse de rappeler l'importance de Studio Tsemani dans le paysage médiatique malien. Pour Bandjougou Danté, la préservation des acquis de ce média est de la responsabilité de tout le monde.
Ceux qui hier étaient là et sont encore là, ceux qui ont regagné l'équipe, tous doivent comprendre que c'est un patrimoine qui va au-delà de la seule rédaction. Et aujourd'hui, il est extrêmement important de continuer à tout mettre en œuvre pour qu'on ne dise pas que les fin est devenu un lapin. C'est de la responsabilité de tout le monde.
Tout mettre en œuvre pour accéder à plus de monde. C'est justement la vision à long terme du projet, assure son représentant national Espérant Moulamba.
La vision long terme s'articule autour, bien sûr, de la vision plus globale de la Fondation Hirondelle pour ses projets à travers le monde. Ici au Mali, ça se traduit sous la forme d'un investissement plus important dans le digital. C'est aussi la professionnalisation de nos journalistes en offrant de plus en plus de formations professionnalisantes qui sont aussi en lien avec les tendances aujourd'hui, par exemple, sur la désinformation, sur la couverture de conflits.
Pour rappel, Studio Tsemani, c'est 4h30 minutes de programme radiophonique en 5 langues diffusées au quotidien sur 85 radios partenaires à travers le Mali.
Studio Tsemani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Nous sommes en vacances et très souvent, les enfants sont à la maison avec les grands-parents. Entre eux et les aides ménagères, le quotidien ne se passe pas sans tracasserie. C'est le sujet de notre rubrique, de notre chronique Zoom sur avec Lale Tangara.
Dès que papa et maman sortent, c'est bonjour les dégâts. Binta est l'aide ménagère de la famille. Depuis 7h du matin, elle essaie de finir le nettoyage de la maison sans succès. Tantôt, c'est papou qui court par là, tantôt bébé et Fatim se battent pour la télécommande et pour couronner le tout, Ali vient de verser sa bouillie sur la terrasse. Et c'est impossible de les frapper ou gronder car grand-mère et grand-père sont à côté. Avec ces remarques du genre « Ne touche pas à mes petits-enfants, toi Binta, tu n'es pas patiente, ce ne sont que des enfants. À ton âge, je suis sûre que tu faisais pareil. » Il est 17h et c'est l'heure de la descente pour papa et maman. Binta n'a pas fini ses tâches ménagères. Elle se fait gronder par ses patrons devant papy et mamie et leurs petits-enfants. Et c'est une routine tous les jours durant les vacances. Alors, chers papy et mémé, les traités d'éducation conseillent toujours de ne pas gâter les enfants par trop d'amour et de délicatesse. Au contraire, mais de les endurcir pour les préparer dès le départ à la vraie vie.
Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Voilà qui met fin à cette édition matinale présentée par Emirana Kilomaya. La mise en onde, c'était Nuhun Gire. Merci de l'avoir suivi. La guerre par procuration, entendez par là une guerre menée par un État qui ne prend pas directement part aux opérations, mais agit par l'intermédiaire d'un autre acteur. Selon des spécialistes, ces insurrections peuvent impacter les États concernés, mais aussi les relations diplomatiques. Pour des sociologues, les populations sont affectées par ces guerres qui sont parfois contraintes au déplacement. Pour comprendre le concept de la guerre par procuration, nous avons donné la parole à des spécialistes des relations internationales. Dans ce magazine Gouvernance et Citoyenneté, il est réalisé et présenté par Lale Tangara.
La guerre par procuration. Ces conflits sont devenus fréquents en raison de la géopolitique. Docteur Ngolo Diarra, spécialiste des relations internationales, estime que c'est une manière utilisée par les États de mener la guerre à une autre nation, sans un affrontement terrestre.
Cette technique de guerre consiste à ne jamais entraîner de choc militaire frontal. Elle mêle les faits accomplis avec présence des milices, dénie toute présence de soldats, propagande par les télévisions, les réseaux, faux référendums, gagner du temps par les rencontres diplomatiques où l'on fait semblant de céder, puis gagner ensuite les terrains en grignotant pour empêcher tout règlement normal de la dite guerre.
Comment se prémunir des conséquences de ces insurrections? Des normes ont été établies afin d'éviter l'anarchie diplomatique entre les États, notamment les chartes des Nations Unies, souligne Dr Ngolo Diarra.
Aujourd'hui, il y a effectivement une violation de droit international, de principes régissant les relations internationales, à savoir non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État, à savoir l'interdiction de recourir à la force armée dans les relations internationales et l'égalité souveraine des nations. C'est tout cela qui sont en train d'être remis en cause.
Dr Ahmadou Touré, analyste sécuritaire, met à cet effet l'accent sur les relations bilatérales des pays. Pour lui, en matière de diplomatie, les pays n'ont pas d'amis, mais que des intérêts.
Les pays n'ont pas d'amis, mais les pays n'ont que des intérêts. En fonction des intérêts du Mali, adapter ou mettre en place des canaux diplomatiques et établir des accords ou des relations bilatérales ou multilatérales. Avec nos pays voisins, le Mali peut les impliquer dans le retour de nos réfugiés et autres exilés politiques. Et notamment avec les pays voisins, le Mali peut sauvegarder les relations économiques.
Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, indique que l'influence extérieure peut parfois attiser les tensions et prolonger les conflits dans le temps.
L'influence des acteurs extérieurs qui sont très puissants parfois, qui alimentent le conflit à travers le soutien en termes d'armement, en termes d'appui économique, en termes de renseignement, etc., jouent énormément sur l'ampleur du conflit en termes de dégâts matériels, perte de vie humaine et même parfois la durée des conflits dans le temps. Parce que parfois, si ce sont les seuls acteurs qui sont en face qui s'affrontent, ces acteurs pourraient être rapidement épuisés et penser sérieusement à négocier une paix.
Ces conflits par intermédiaires peuvent avoir des conséquences sur les populations. Le sociologue Brahima Elidiko affirme qu'ils brisent le tissu social et engendrent des déplacements massifs.
Il y a l'effritement du tissu social, il y a les déplacements forcés qui touchent notamment les femmes, les enfants. Et beaucoup de femmes, par exemple, deviennent des veuves. Des enfants se retrouvent orphelins, sont obligés de vivre sur des sites d'accueil dans des zones délabrées, sans accès aux services sociaux de base. Cela crée des problèmes psychologiques dus aux atrocités subies. En dehors de ça, ça ternit l'image d'un pays.
Ces spécialistes des relations internationales soulignent que la guerre par procuration anéantit le développement d'une nation, met en cause les efforts des autorités, car nul ne sait quand ces conflits termineront.